Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ceux qu'il a créés mâles et femelles. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse et se comporte en piété, et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 3 Dey 1401 du calendrier iranien, 24 décembre 2022. Aujourd'hui, nous vous présenterons notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. La fenêtre de l'accord est ouverte de la part de l'Iran, mais pas pour toujours, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. La fenêtre de l'accord est ouverte de la part de l'Iran, mais pas pour toujours, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Le Hamas et le djihad islamique s'engagent à renforcer la résistance après le meurtre d'un jeune Palestinien par les forces israéliennes. Et le Congrès américain adopte une loi de finances avec 45 milliards de dollars pour Kiev. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le chef de la diplomatie iranienne dit que la fenêtre de l'accord est ouverte de la part de l'Iran, mais pas pour toujours. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu'une opportunité existait pour que les trois parties européennes à l'accord nucléaire de 2015 parviennent à un bon accord durable dans les pourparlers sur la levée des sanctions et la relance de l'accord multilatéral. Hossein Amir Abdollahian a écrit dans un message publié sur sa page Twitter vendredi soir 23 décembre qu'il s'était entretenu avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, des dernières étapes du cours des négociations pour ressusciter le plan global d'action conjointe en marge de la deuxième édition d'un sommet régional sur l'Irak dans la capitale jordanienne Amman le 20 décembre. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Les mouvements de résistance palestiniens, le Hamas et le djihad islamique, ont dénoncé le meurtre par les militaires israéliens d'un jeune Palestinien près de Tel Aviv. Le djihad islamique a promis que les crimes israéliens ne saperaient jamais la détermination du peuple palestinien à libérer son pays. Le Hamas a également souligné que la résistance palestinienne se poursuivrait et même s'intensifierait jusqu'à la fin de l'occupation israélienne et l'établissement d'un État indépendant palestinien avec Rots pour capitale. Vendredi, les forces israéliennes ont abattu Naïm Badir dans la ville de Kfar Qassem. Ils allèguent qu'il a mené une attaque à la voiture Bélier blessant 3 soldats israéliens. Réagissant aux évolutions tragiques, le Hamas avait plutôt déclaré que le sang des martyrs ne sera pas en vain et d'encourager les partisans de la résistance. Les forces israéliennes ont tué plus de 220 Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sous blocus rien qu'en 2022. En France, la police a affronté des manifestants dans la capitale Paris après une fusillade mortelle avec un motif raciste présumé dans un centre kurde au centre de Paris. Des manifestants se sont rassemblés près du lieu de la fusillade, lançant des pierres sur la police. Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et tenté de disperser la foule. Le président français Emmanuel Macron a qualifié la fusillade d'attentat odieux. Le ministre de l'Intérieur a renforcé la protection policière des sites communautaires kurdes à Paris et ailleurs dans le pays. Un homme de 69 ans a été arrêté en lieu pour la fusillade qui a fait 3 morts et 3 blessés. Le suspect était connu des autorités et avait des antécédents de racisme et d'attaque contre des ressortissants étrangers, en particulier des Kurdes. La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé un programme d'aide de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le Congrès américain a adopté vendredi un vaste projet de loi de finances des services fédéraux d'un total de 1 700 milliards de dollars, dont 45 milliards pour l'Ukraine, par un dernier vote de la Chambre des représentants. L'aide militaire et économique fait partie d'un projet de loi de financement gouvernemental qui a été adopté par le Sénat. Il ira maintenant au président américain Joe Biden pour être promulgué. Ce vote intervient 2 jours après une visite éclair du président ukrainien à Washington, au cours de laquelle Volodymyr Zelensky s'était vu promettre de la part de Joe Biden une nouvelle tranche d'aide, dont le fameux système de défense antiaérienne Patriot. Les États-Unis restent le principal sponsor militaire de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Ils ont déjà envoyé une aide d'environ 50 milliards de dollars à l'Ukraine cette année. Et enfin, des milliers de vols ont été annulés aux États-Unis alors qu'une énorme tempête hivernale met à rude épreuve les opérations aéroportuaires. Près de 7000 vols ont été annulés vendredi et jeudi, laissant les vacanciers frustrés. L'administration fédérale de l'aviation a imposé des arrêts au sol et des retards pour dégivrer un certain nombre de pistes d'aéroports à la suite des tempêtes. À 8 heures locales, Seattle, la plus grande ville de l'État de Washington, avait déjà annulé 449 vols, soit 39% de ceux au départ et 40% de ceux à l'arrivée. À Portland, dans l'Oregon, on a dû annuler 202 vols, soit 46% de ceux au départ et 41% de ceux à l'arrivée. Plus au sud, en Californie, ce sont 51 vols qui ont été annulés à l'aéroport de San Francisco, tandis que 79 autres ont dû être retardés. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. We'll be right back. Le chef de la diplomatie iranienne dit que la fenêtre de l'accord est ouverte de la part de l'Iran, mais pas pour toujours. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu'une opportunité existait pour que les trois parties européennes à l'accord nucléaire de 2015 parviennent à un bon accord durable dans les pourparlers sur la levée des sanctions et la relance de l'accord multilatéral de 2015. Amir Abdollahian a écrit dans un message publié sur sa page Twitter vendredi soir, 23 décembre, qu'il s'était entretenu avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, des dernières étapes du cours des négociations pour ressusciter le plan global d'action conjoint lorsqu'ils se sont rencontrés en marge de la deuxième édition d'un sommet régional sur l'Irak dans la capitale jordanienne Amman le 20 décembre. Il a précisé « La fenêtre de l'accord est ouverte de la part de l'Iran, mais pas pour toujours. Les pourparlers pour sauver le plan global d'action conjoint ont débuté dans la capitale autrichienne Vienne en avril 2021 avec l'intention d'examiner le sérieux de Washington à rejoindre l'accord nucléaire et à lever les sanctions anti-iraniennes. Les négociations sont au point mort depuis août en raison de l'accent mis par Washington sur sa position impitoyable de ne pas lever toutes les mesures punitives imposées à la République islamique d'Iran par la précédente administration républicaine de Donald Trump. Il est nécessaire que l'autre partie offre certaines garanties qu'il restera attaché à tout accord conclu, souligne la République islamique d'Iran. Ailleurs, dans son message sur Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé à une solution politique à la crise ukrainienne. La Russie a lancé ce qu'elle appelle une opération militaire spéciale en Ukraine dans le but déclaré de dénazifier le pays le 24 février après que Kiev n'a pas mis en œuvre les termes des accords de Minsk. Depuis le début de la guerre, les États-Unis et leurs alliés européens ont imposé des vagues de sanctions économiques sans précédent contre Moscou, tout en fournissant d'importants envois d'armes lourdes à Kiev. Le Kremlin affirme que les sanctions anti-russes et les aides militaires occidentales à Kiev prolongeront la guerre. Malgré le flux de soutien financier et militaire, en particulier de Washington, le gouvernement de Kiev affirme qu'il en faut encore plus pour faire pencher la balance en faveur de l'Ukraine dans la guerre. Le 9 décembre, Washington a officiellement annoncé sa décision d'envoyer un autre paquet d'armes à Kiev qui comprendra des systèmes anti-drones et de défense aérienne. Le programme d'aide, qui comprendrait des roquettes pour les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, HIMARS, des munitions de 155 mm, des véhicules Humvee et des générateurs, est estimé à 275 millions de dollars. Les États-Unis ont également envoyé pour quelques 20 milliards de dollars d'armes à Kiev, notamment des munitions d'artillerie, des munitions pour les systèmes de défense aérienne HIMARS. Concernant les récents propos interventionnistes du porte-parole du Département d'État américain, Ned Price, sur les émeutes en Iran, Hossein Amir Abdollahian a souligné que Washington n'était pas en mesure de sermonner les autres pays sur les droits de l'homme. Ni les tragédies de Guantanamo et d'Abu Ghraib, ni les crimes perpétrés contre les femmes et les enfants au Yémen et en Afghanistan ne donnent aux États-Unis le droit de se pencher sur la question des droits de l'homme, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision de Presse TV, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, le sujet donc de Eutelsat, qui a arrêté de diffuser définitivement ou provisoirement les chaînes russes et iraniennes, dont IRIB et Presse TV. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être déjà, nous proposons tout d'abord un reportage pour par la suite accueillir nos invités. Je vous propose donc tout d'abord notre reportage.
L'Eutelsat met fin aux activités de certaines chaînes iraniennes et russes. Eutelsat vient d'annoncer la fin de la transmission par ses satellites de plusieurs chaînes russes et d'une chaîne iranienne. La société, qui est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde, se conforme ainsi à plusieurs injonctions françaises et européennes, tout en acceptant l'impact sur ses finances. Eutelsat vient ainsi, dans ce cadre, d'annoncer la suspension de trois chaînes, Russia 20 per VI Canal et NTV. Une décision qui fait suite à une mise en demeure publiée la semaine dernière par l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ICRAM, pour qui ces chaînes ont de nombreuses fois été coupables d'appels à la haine et à la violence et de désinformation. La société française s'est par ailleurs conformée à un règlement de conseil de l'UE en date du 12 décembre dernier qui mettait en place des sanctions destinées à l'Iran en raison de la répression contre ses manifestants et de sa coopération avec la Russie. Eutelsat a ainsi mis fin à l'ensemble des activités de diffusion liées à l'entité islamique république of Iran, Broadcasting IRIB. Il y a quelques semaines, cela, Presse TV avait été averti de cette éventualité pour sa chaîne par Eutelsat. En effet, l'Union européenne a imposé des sanctions à un certain nombre d'institutions et de personnes iraniennes, dont la chaîne de télévision anglophone Presse TV, qui fonctionne 24 heures sur 24 en raison de prétendues violations des droits à la suite des récentes émeutes soutenues par l'étranger dans le pays. Les experts estiment que les sanctions imposées à Presse TV par l'UE et auparavant par le gouvernement canadien visent à museler la liberté d'expression et les opinions alternatives. Ils ont également souligné le rôle joué par Presse TV au cours des récentes émeutes, la chaîne d'information ayant fait de gros efforts pour contrer les faux récits entretenus par les médias occidentaux concernant les émeutes en Iran. En dépit des fausses informations de l'UE, selon lesquelles Presse TV est responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés des détenus, aucun aveu forcé de ce type n'a été produit ou diffusé par la chaîne d'information en langue anglaise au cours des récentes émeutes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a averti en octobre que Téhéran prendrait des mesures réciproques si l'Union européenne imposait des mesures restrictives contre la République islamique à la suite des récentes émeutes dans le pays.
Nous revoilà sur le plateau, donc nous allons d'abord accueillir nos invités. Nous commençons par M. Arnaud Develet, juriste international. Bonjour Maître Develet.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe et bonjour à votre invité.
Toujours un plaisir de pouvoir avoir votre expertise concernant les sujets politiques ou internationaux. Notre deuxième invité étant M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam, se trouvant en Suède. Bonjour M. Ahmad Rami. Il semblerait que notre deuxième invité ne soit pas encore arrivé. Alors M. Develay, on devait se parler déjà mercredi, malheureusement ça ne s'est pas fait. Alors une nouvelle information concernant donc la chaîne Presse TV et les chaînes russes. Si je ne me trompe pas, vous vous trouvez actuellement à Moscou, c'est ça ?
Oui, absolument.
Donc ont été frappées des sanctions concernant la radiodiffusion, l'audiovision, donc, puisque la chaîne... La compagnie satellitaire Eutelsat a décidé de prendre fin. Alors, ce n'est pas une décision que la compagnie a voulu prendre, puisque ce sont des institutions européennes qui ont fait pression contre Eutelsat pour faire la fermeture, pour qu'ils ne diffusent plus les chaînes iraniennes et russes. C'est ça, si je ne me trompe pas ? On leur a imposé la situation.
Oui, oui. C'est une décision éminemment politique, de toute évidence, et cela fait écho à... toute une série de décisions qui ont été prises par le Conseil de l'Europe, enjoignant donc ces États membres à mettre en œuvre par le biais de leurs agences respectives, ces oukases, ces stigmates, si je puis dire, quant à donner la parole à des gens dont la parole n'est pas autorisée. Et donc, dans ce contexte-là, un contexte de guerre hybride, encore une fois, parce qu'il faut comprendre que tout ça participe du concept de la guerre hybride, tout ce qui porte sur les moyens de communication, sur l'instrumentalisation du droit, sur l'instrumentalisation des agences de l'ONU, sur toute forme de confiscation d'avoir à l'étranger sans décision de justice, fait partie et participe intégralement à un effort coordonné qui correspond à une propagande de guerre. Et en cela, la République islamique d'Iran est ciblée au même titre que la Fédération de Russie. Et on peut penser qu'avec l'évolution de la situation peut-être en mer de Chine méridionale, nous verrons bientôt des médias chinois ou sinophones eux-mêmes ciblés par ces mêmes décisions, ces mêmes injonctions. Donc tout ça, quelque part, est tout à fait, j'allais dire, cohérent avec ce qu'on a pu voir depuis des années déjà, et qui s'accentue depuis le 24 février et depuis plus récemment en ce qui concerne votre pays avec les tentatives de déstabilisation de l'étranger qu'on a pu voir depuis environ 3 mois maintenant.
Alors, donc, Eutelsat a été obligé par une décision judiciaire de fermer donc, ces fameuses chaînes, en tout cas de ne plus les diffuser.
Une décision judiciaire, non, une décision politique. C'est un règlement de l'Union européenne adopté le 12 décembre dernier qui fait suite à une série de règlements du même type. Donc ce sont des décisions éminemment politiques et qui n'ont absolument aucun prisme juridique. Il n'y a aucune analyse juridique. Je prends l'exemple, par exemple, de Roman Abramovitch, qui est un oligarque bien connu, puisqu'il était anciennement le patron de l'équipe de football de Chelsea. Là, en ce moment, ils essayent de voir au Canada... s'il y a possibilité, en fait, essentiellement, en un mot, de lui voler son argent. Et tout ça correspond, il n'y a pas de décision de justice, il n'y a pas d'analyse juridique sur quoi que ce soit. Le gouvernement canadien prétend qu'il serait un proche de Vladimir Poutine, et c'est la seule raison qui est invoquée. Et jusqu'à ce que lui saisisse ses avocats pour pouvoir, peut-être au travers d'une commission d'arbitrage au civil, démontrer que tout ça est complètement politique, c'est le fait du prince et on s'aperçoit qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est, encore une fois, ça n'a rien à voir avec une décision judiciaire. On n'est pas dans le droit, on est absolument en dehors de tout cadre judiciaire. Et on voit d'ailleurs que ce soit le Congrès américain ou l'Union européenne, les deux entités coordonnent leurs efforts pour essayer maintenant de rétroactivement trouver un fondement juridique quant à s'approprier tous les avoirs russes qui ont été confisqués, encore une fois, en dehors de tout cadre juridique.
Oui, je voulais d'ailleurs conclure sur cette partie-là. Donc, désolée de vous interrompre, parce que cette partie-là, bien entendu, on va en parler, hein, c'est la partie complète du sujet. L'autre partie que j'avais envie de parler, quand on s'intéresse seulement à Eutelsat, c'est dire que finalement, ceux qui sont le plus grugés, est-ce que ce sont vraiment les Iraniens ? Est-ce qu'on peut considérer que ceux qui vont le plus pâtir en fait de cette décision politique, comme vous l'avez vous-même dit, prise par l'Union européenne, influencée peut-être par les États-Unis, dans tous les cas de figure, c'est une décision politique. Est-ce que vous, selon vous, vous-même, vous êtes européen, mais vous bougez beaucoup, vous étiez en Syrie, là vous êtes en Russie, vous suivez beaucoup les conflits à travers le monde. Est-ce que ceux qui sont plus grugés, ce sont les Russes et les Iraniens dans cette histoire ?
Bah écoutez, je pense que les Iraniens savent très bien depuis 43 ans comment leurs adversaires, voire leurs ennemis fonctionnent, en tout cas au niveau des gouvernements. Donc eux, personnellement, je pense qu'ils connaissent la réalité, ils la vivent dans leur chair au jour le jour depuis bien longtemps maintenant. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui s'adresse autant à eux. Ils ont bien compris les systèmes de manipulation et de mensonges. Tout est basé sur le mensonge. Maintenant, on le sait de manière presque quasi officielle. Et donc je pense que s'il doit y avoir des gens qui sont lésés par ce genre de décision, ce sont bien sûr les populations captives en Occident de manière générale, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, probablement au Japon et en Nouvelle-Zélande.
Oui, parce qu'on ne leur permet pas d'avoir une autre forme de média, on ne leur permet pas d'avoir une autre idée. C'est-à-dire, c'est comme on dit souvent que les disputes, ce sont les deux individus qui se disputent, qui sont responsables, non pas seulement un individu. Là, en n'écoutant qu'un seul bord d'une histoire, qui est une histoire internationale, forcément, ils sont grugés parce qu'ils n'ont pas accès à toute l'information pour prendre une décision.
Oui, tout à fait. Bon, ceci dit, je pense qu'en même temps, avec les éléments de langage répétitifs qui sont martelés par les médias officiels, les médias de grand chemin dans ces pays, des pays occupés, encore une fois, mentalement et culturellement par des forces qui n'ont rien à voir avec les intérêts, bien compris, des populations, ces dernières, intuitivement, je pense, comprennent qu'on leur ment, de toute façon. C'est pour ça que la censure est de plus en plus intense et que pour ce qui peut porter sur des manifestations massives dans les rues, les gouvernements fantoches de ces pays, maintenant, ont recours à la force et à l'armée, aux forces de police. Et ce sont d'ailleurs ces organes étatiques qui sont les plus dotés pour justement réprimer le plus possible, parce qu'au niveau d'une discussion effectivement de fond entre deux interlocuteurs sur des faits objectifs qui partagent les mêmes termes de référence, on s'apercevrait rapidement que rien ne fait sens dans tout cela. Donc ils sont lésés, oui, mais il ne faut pas non plus croire qu'ils sont, si je puis dire, subjugués par cette propagande qui leur est martelée au quotidien.
J'étais justement en train de parler avec un collègue il y a quelques semaines concernant donc la diffusion médiatique de ce qui se passe en Ukraine et dire que vraiment je ne pense pas que les journalistes qui font leur boulot soient convaincus de ce qu'ils font quand ils disent que les gens de Donbass ne souffrent pas, que ce sont plutôt les Ukrainiens de Kiev, qu'il n'y a pas de nazisme, etc. Et puis ce journaliste a dit non, ils sont extrêmement convaincus, les médias américains, les Européens sont extrêmement convaincus qu'ils sont sur le bon bord de l'histoire. Moi, je remets en question cette idée. Oui, les Européens savent se renseigner ailleurs à l'heure actuelle, parce que c'est pas nouveau ce genre de censure.
Non, c'est pas nouveau, mais si vous voulez, au travers du prisme de la mondialisation qu'on a pu connaître depuis 30 ans et l'explosion des médias alternatifs, d'Internet, les moyens déployés sont inversement proportionnés justement à ce flot d'informations horizontales par réseau, qui fait qu'aujourd'hui, à la différence d'il y a, on va dire, 20 ans, il est pratiquement quasi impossible pour les pouvoirs en place de contrôler à 100% le flot d'informations. C'est ça la grande différence. Et cette fébrilité, quelque part, est un aveu d'impuissance de la part de ces gouvernements fantoches, puisqu'ils savent très bien que le temps est compté. Plus, si vous voulez, les tendances lourdes s'accentuent, plus l'information se diffuse au niveau horizontal. Et à partir de là, c'est une question de temps, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et à un moment donné, on arrive à une masse critique où les populations, en plus d'être pleinement, cognitivement mises au fait que non seulement leur gouvernement leur manque, mais leur gouvernement aussi pratique des politiques qui ont des coûts sur l'économie, sur la prospérité, sur le bien-être, Le plus, à un moment donné, sur un plan politique et sur un plan social, il va y avoir forcément des bouleversements. Et c'est ce que, au travers de cette propagande frénétique, si je puis dire, les gouvernements fantoches essayent de se prémunir. Mais malheureusement, les faits sont têtus et le pendule revient toujours de l'autre côté, malgré tous les efforts qui peuvent être mis en place pour le maintenir à distance.
Merci, monsieur Maître Develay. Alors, je rappelle, monsieur Arnaud Develay étant à Moscou, il est témoin de ce que se passait donc au niveau des frontières et au niveau de la température qu'il peut y avoir en Russie concernant donc cette guerre. D'abord, nous allons parler avec monsieur Ahmad Rami qui est avec nous à l'heure actuelle. Donc, je rappelle, directeur de Radio Islam étant situé à Stockholm, en Suède. Monsieur Arami, ravi de vous avoir sur notre plateau.
Merci.
Alors, vous-même étant président d'une radio, vous connaissez bien la diffusion, vous connaissez bien également comment on peut faire taire un média. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé à l'Iran et à la Russie ? Donc, ce sont deux pays dont on leur a supprimé la diffusion en Europe par le biais de la société Eutelsat, qui est la plus grande diffusion en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation ?
Écoutez, actuellement, il y a une guerre froide, ce qu'on appelle une guerre d'agression froide, hein, de la part des lobbies qui, aujourd'hui, dominent le monde, dominent les mass médias et ne laissent, s'exprimer que les gens qui font partie des institutions dominantes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il se trouve que, en réalité, la plus grande résistance contre ces lobbies et cette occupation, c'est la République islamique d'Iran et la Révolution islamique d'Iran. Et il faut le savoir que la République islamique d'Iran, aujourd'hui, et quand il s'agit de la question palestinienne, surtout, et de la dominance des lobbies sionistes, c'est le seul pays qui, ouvertement, le seul gouvernement, le seul État qui, aujourd'hui, résiste encore à cette domination sioniste qui domine le monde.
Merci, monsieur Rami. Oui, je vous en prie, je vous en prie.
Oui. Et c'est, donc, c'est un honneur pour la République islamique d'Iran d'être l'objet, le but et de cette action, parce que ça montre seulement que la République islamique d'Iran est sur une bonne voie, la révolution islamique d'Iran, parce que aujourd'hui l'occupation n'est pas seulement l'occupation militaire, c'est surtout l'occupation médiatique, l'occupation politique que le lobby sioniste exerce mondialement. Les États-Unis sont politiquement, médiatiquement occupés par le lobby sioniste. Et tout l'Occident, d'ailleurs, sont occupés par le lobby sioniste. Donc, ce que la République islamique d'Iran aujourd'hui, ouvertement, franchement, s'attaque à la domination et à l'occupation sioniste, c'est un honneur pour la République islamique d'Iran et la révolution islamique d'Iran, qui représente en fait pas seulement le monde islamique, mais aussi toute l'humanité dans son combat pour la justice et pour l'égalité et pour la liberté.
Merci, monsieur Ahmad Rami. Alors, monsieur Arnaud Develay, au début de l'émission, vous aviez parlé donc du point de vue de ce qui se passait donc aux États-Unis par rapport au Canada, aux États-Unis et au Canada concernant le vol de l'argent des oligarques russes. Alors, rien que récemment, le Sénat a voté aux États-Unis également, ils veulent voter aux États-Unis le droit de s'accaparer donc les richesses russes placé en banque américaine, ce qui est extrêmement osé quand on pense que ça va mettre en insécurité les banques et l'assurance d'une banque, de la sécurité de l'argent dans une banque. Mais de l'autre côté, on a entendu parler sur Twitter avec notamment les décisions du FBI qui a réclamé à Twitter de mettre plus en valeur certains tweets pour avancer certaines révolutions de couleur. Alors, ce sont des diffusions qui ont été faites. Bon, le FBI essaie de se retirer en disant non, ça n'est jamais arrivé, mais l'information est passée sur toutes les chaînes. Vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que ce genre de décision ne remet pas leur propre république, leur propre loi en danger, en fait?
Ben écoutez, je pense qu'il faut partir plutôt du postulat selon lequel ils s'en fichent essentiellement. C'est-à-dire que maintenant, les masques sont tombés et les pouvoirs profonds, les États profonds en Occident, en tout cas l'État profond au sens large, avancent à visage découvert depuis maintenant plusieurs années, mais avec une accélération certaine depuis au moins 3 ans, depuis début 2020 maintenant, ils accélèrent. Et ils mettent en place quelque part leur agenda. Ils savent qu'ils ont une fenêtre très étroite parce que l'Eurasie est en train de prendre son essor, que c'est exponentiel et que c'est une course contre la montre. Et le président Poutine l'a dit dans son discours du 30 septembre dernier que la décennie à venir est une décennie très dangereuse parce qu'effectivement, il y a une passation de pouvoir. Le centre de gravité du monde maintenant est en train de bouger. Et que c'est la fin de 500 ans d'hégémonie occidentale et les pouvoirs financiers, les familles cachées, l'État profond au sens large d'Occident a bien compris qu'effectivement c'est ce qui se passe et qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire. Donc si vous voulez, tout ce qui portait sur les apparences du droit et du respect des règles. On entend maintenant des expressions qui portent plus sur le droit onusien, le droit positif onusien ou le droit international bien compris, mais le respect des règles internationales. Quelles sont ces règles internationales?
Parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé pour l'Iran, bon, les premières sanctions avaient fonctionné, ça a été avoué par les Américains. Quand ils ont fait les premiers accords nucléaires, là, tout le monde considérait que c'était le bon moment, parce qu'à un moment donné, ben, chacun a ses limites. Mais puis ces nouvelles sanctions ont poussé l'Iran finalement à rentrer dans l'industrialisation, donc à contrebalancer ces sanctions. Donc on a vu cette semaine que l'Iran a montré que son industrie nucléaire civile pouvait produire de l'électricité, chose qui était surtout dans les mains de la technologie française. Donc le fait de couper ces pays-là leur donne envie d'en avoir encore plus d'outils finalement, parce que même les Russes ont expliqué que même si l'Europe leur coupait le droit de vendre leur pétrole en poussant les assurances et les compagnies en Europe de ne pas acheter, en fait, tout simplement, ils allaient créer leurs propres assurances, leurs propres navires, leurs propres systèmes à eux-mêmes qui éviteront à ce que les sanctions soient efficaces.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les Coréens du Nord eux-mêmes ont institutionnalisé cette doctrine qu'ils appellent Zushe, qui est une doctrine d'auto-suffisance. Et c'est une doctrine qui, maintenant, est pratiquée par tous les pays qui sont ciblés par Washington et ses vassaux. Donc, c'est comme ça, quelque part, que ces pays vont s'en sortir, parce qu'il faut être solidaire. S'il le faut, créer une alternative, des institutions parallèles, puisque toutes les institutions qu'on a pu connaître depuis 1945 sont maintenant sous contrôle de l'État profond, ce sont des coquilles vides. Et donc, on assiste à, quelque part, une division du monde en deux, à nouveau. Mais, quelque part, c'est logique, dans le sens où on réalise que l'empereur n'a pas de vêtements, enfin le roi est nu, comme on dit, et que à partant de là, il y a des débouchés alternatifs, et les pays que vous avez mentionnés en sont parfaitement conscients. Donc il s'agit maintenant de se prémunir des attaques récurrentes, subsidiaires, si je puis dire, tout en créant une réalité alternative basée sur des règlements, des droits, des institutions, et des circuits de distribution qui soient complètement hors de ce qu'on a pu connaître. Et c'est ça, en fait, l'émancipation au total. Donc, c'est, je pense, la conclusion logique de la mise à nu de cette supercherie que l'Occident a essayé de mettre en avant comme étant, un diffuseur de civilisation. En fait, on s'aperçoit que leur civilisation n'en est pas, en tout cas pas depuis un certain temps maintenant.
Merci.
Et les autres peuples, le Sud global, veut s'émanciper, veut ses droits, veut avoir comment dirais-je, une vision alternative à ce qu'il aurait imposé au travers d'une mondialisation qui est plutôt une américanisation du monde.
Merci Maître Develay. Monsieur Ahmad Rami, ravi aussi d'avoir eu votre expertise aujourd'hui. C'est là que se finit et va se conclure donc ce débat, dont les derniers mots de Monsieur Develay, que je rappelle, finalement on en arrive à une émancipation de ces pays, une indépendance complète, que ce soit au niveau de la monnaie, mais aussi des assurances et des autres outils qui ont été mis en place lors de la mondialisation. Moi, je finis aujourd'hui, pour aujourd'hui, le débat. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous suivre. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos pages et nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet de débat, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran.
Effondrement du mythe fondateur du capitalisme. Première partie. Le mythe est essentiellement le fondement paralogique et paradoxal que dispensent les chefs hiératiques et laïques des sociétés en credo à la collectivité pour la conduire selon leurs propres intérêts de classe ou de caste. D'où la vie rationnelle des hommes en société est menée par suggestion selon des principes échappant à toute critique parce que présupposés comme axiomatiques, nécessairement et naturellement surlogiques, transcendant la raison. Le mythe fondateur du capitalisme, la mobilité sociale par le travail et la propriété que tous peuvent acquérir s'ils travaillent, est totalement démenti vu la population de rudes travailleurs minés par la pauvreté quotidienne. Le mal diabolique, la malignité maléfique des autorités économiques et de leur support politique, et cette impudence idéologique des médias mainstream et de leurs spécialistes qui voudraient faire croire le contraire. D'ailleurs, quoique copieusement démenti depuis les débuts du capitalisme moderne, le dit mythe aura subi un de ses plus terribles revers à la crise de 2008, laquelle menace de se rééditer sous de nouvelles formes, ce malgré certains couptés enrichis que les experts néolibéraux, les tenants très médiatisés du capitalisme en général, particulièrement les chiens de garde idéologiques de la croissance économique sans limite, brandissent comme un rituel parangon de modèles et de réussite. Car la précarité des classes moyennes est encore plus que jamais criante et l'échec du système malgré l'exaltation de la croissance est cuisant quand on voit la paupérisation en masse de certains professionnels et employés. La phase de crise permanente du système capitaliste, notamment anglo-saxon, imposée au monde, est perceptible à travers la crise de paupérisation telle la crise de logement aux USA qui atteint des pics extrêmes en Californie, l'impossibilité de se soigner pour de nombreux malades états-uniens incapables de faire face aux coûts des frais médicaux et des médicaments comme ces diabétiques ne pouvant même pas se procurer leur insuline. Sans oublier la fragilisation de l'investissement des petits et moyens entrepreneurs, précarisés par les normes du crédit imposées sauvagement au monde contemporain selon les dictats de la finance sous le règne féroce des grandes banques privées qui menacent de ruine nombre de rudes travailleurs espérant par le travail une élévation sociale, voire un transfert de classe. La finance était une quasi-immobilité de la classe bourgeoise, rendue oligarchie pérenne extrêmement restreinte, appelée à posséder tout et tous par la loi d'une sorte d'économie virtuelle propre à la spéculation financière. Si le mythe, disait Mircea Eliade, n'est pas l'histoire réelle mais vraie des peuples, dans le cas d'une institution idéologique qui englobe toutes les structures sociales et étatiques, cette définition du mythe ne tient guère. Alors, pour nous autres qui questionnons un système devenu seconde nature de la réalité quotidienne des hommes, imposé par l'État plutocratique, force est de remarquer que le mythe n'est autre que prétexte de justification, argutie de manipulation, que tissent comme une pré-idéologie les tenants de l'institution sociale qui argue de vérité en se targuant de droit divin sans vraiment le dire. Car tout le discours social et le jugement, cette finalité idéale du discours, y tient et en découle. Là, le logo censé rationnel, à l'inverse du mytho, relevant de l'imaginaire rêveur, dérive de ce dernier et n'est plus que multiplicité rythmique d'une même rengaine vouée à créer l'illusion d'une polyphonie moqueuse. Un sordide mode de variation ironique, de pluralisme social factice et trompeur. La modalité même du foin discursif capitaliste est séquestration de l'État et abêtissement de la nation rendu prétexte parce que, avorté sans cesse dans l'élimination de la citoyenneté effective pour l'opulence de quelques-uns. Le mythe capitaliste ne demeure que par la force et la monopolisation de toutes les ressources communes à l'humanité par quelques prédateurs qui, ainsi, gardent sous leur coupe, retiennent par le ventre la grande majorité qu'ils réduisent à être de simples travailleurs esclaves de leur ordre pour la subsistance. La récusation de l'ordre capitaliste mondial n'est pas une adoption automatique du marxisme combien pluriel dans les courants qui s'en réclament, mais une exigence de la dignité fonctionnelle de l'homme dans la société. Pas de dignité sans l'équité économico-sociale et l'espace de liberté globale qu'elle suppose. Liberté, flamme si fascinante, si intuitif à la nature humaine que tous les désaliénés des générations vont s'y brûler malgré le fer et le feu des tyrans. Fascisme subtil du capitalisme contemporain. De fait, le fascisme est la fausse sensibilité de classe que suggère le pouvoir capitaliste à des strates des dites classes moyennes afin de mieux les porter à la haine raciale, ethnique et crépusculaire pour les dévier de la question systématique essentielle du dysfonctionnement tout court ou du fonctionnement arbitraire et despotique du capitalisme. Un dysfonctionnement qui a besoin d'épidémies comme le coronavirus pour cacher ses crises en manipulant les peuples par la désinformation sous forme d'une surinformation intoxicante. C'est l'art du bourgeois de se maintenir au pouvoir en générant des imbécilités d'extrême droite, voire de gauchisme populiste chez des frustrés désorientés. Et c'est aussi un talent de l'État bourgeois que de créer des chocs sous forme de crises parallèles à la politique économique, telles des pandémies tombant à bout portant, diaboliquement providentielles pour dissimuler ces crises qui allaient exploser. Le fascisme est la frénésie politique du lâche, opportuniste et médiocre, incapable de se révolter pour faire la révolution et qui cherche des défouloirs humains innocents à ses manques, non comblés comme des boucs émissaires de l'insanité sociopolitique, économique et humaine, de la société bourgeoise pleine de clivages tyranniques et d'injustices sociales extrêmement douloureuses. La doctrine fasciste est un exutoire pour politicailleurs haineux. L'on comprend pourquoi le fascisme surgit avant tout comme conséquence d'un complexe d'impuissance collective de classe et d'infériorité de menu politicar. Médiocrité, impuissance, infériorité diluée au délire nationaliste érigé en idéologie d'État, telle une honte de soi dissimulée dans le fer semblant, et la large politique de ville complexée. L'on sait déjà que le fascisme, de par son amalgame idéal, est apporté dans ses procédés politiques où il se permet d'être, tout comme en jeu de rôle pour défendre ses principes inhumains, antidémocratiques et discriminatoires, de tendances plus ou moins essentialistes, populistes, racistes et xénophobes. Amis auditeurs, la prochaine fois, nous continuerons cette étude. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.